Est-ce que vous connaissez le personnage de Q dans les James Bond? L'expert qui équipe tous les agents avec toutes sortes de gadgets. Eh ben, il se pourrait bien qu'il existe dans la vraie vie et qu'il soit français et travaille avec les forces de l'ordre. Son nom, c'est Cyber Moustache et il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Dans son atelier, il modifie des appareils du quotidien pour les adapter aux besoins de ses clients très spéciaux. Et aujourd'hui, il est venu avec tous ses outils pour nous les montrer. Juste avant d'en parler, quelques mots sur une de mes applis pour être invisible sur Internet. Vous commencez à bien les connaître, c'est Incogni. C'est un service qui va supprimer automatiquement vos données personnelles des bases de données qui les collectent et les revendent. Email, numéro, adresse, tous les trucs qui circulent et qui font que vous avez du spam ou du risque de piratage. Et ce qui est génial avec Incogni, c'est qu'ils contactent toutes ces entreprises en masse à votre place et vont gérer toutes les démarches de suppression automatiquement. Vous avez un joli dashboard pour suivre tout ça en temps réel. Et avec le code UNDERSCORE, vous aurez moins 60% sur l'abonnement annuel avec garantie satisfait ou remboursée. Je vous mets le lien en description et on reprend. Je pense que le mieux, c'est de commencer par cet exemple des Meta Ray-Ban, je crois.
Bien sûr.
Qui est un truc que tu modifies, y compris pour les forces de l'ordre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça, par exemple, ça les intéresse, tu vois?
Alors, typiquement, ils ont les moyens techniques de faire les choses. C'est plutôt le temps qui manque. J'ai travaillé donc pour plusieurs sociétés où je faisais justement un peu de bidouille, de bricolage. Et c'était des demandes à la base plus pour le côté média, comme vous. Et en fait, après, une personne connaissait une autre personne dans les forces de l'ordre et lui a montré, aussi des enquêteurs. Ils ont dit, mais nous, c'est ce qu'il nous faut, c'est génial. On utilise depuis longtemps des Meta Ray-Ban.
Ils utilisaient déjà des Meta Ray-Ban. Pourquoi? Pourquoi ça les intéresse?
Capturer de la preuve surtout pour les enquêteurs par exemple. Un détective, clairement, il doit parfois rester tout ce qui est en filature ou en poste pour récupérer de la preuve. Et pareil, ça permet énormément de choses. Les forces de l'ordre s'en servent pour par exemple de l'entraînement, entraînement au tir. Imaginons que j'ai mes lunettes, que je suis en direct et derrière j'ai un moniteur, même qui est à l'autre bout du monde, qui va me dire ta main gauche elle est mal placée, ta main droite elle est bien, mais tu devrais être plus relax quand tu tires.
Et les forces de l'ordre, du coup, elles utilisaient déjà ces Meta Ray-Ban.
Oui.
Qu'est-ce qui leur manquait? Enfin, c'est quoi le problème en gros?
C'est vraiment cette partie LED bleue qui clignote parce que...
Donc en gros, cette LED, elle s'active dès que tu captures de l'image.
Oui. Une photo, une vidéo, la LED bleue commence à se lancer et elle est... Alors tu peux régler plus ou moins puissante, mais même au moins puissant, c'est quand même très puissant. Et imaginons que tu sois dans un endroit, même en hiver, c'est quand même très visible à l'œil nu.
Ok. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu fais avec ces lunettes?
J'ouvre la lunette. Je casse donc la première lentille qui est, tu sais, un peu comme sur les appareils que vous avez ici, vous avez une première lentille de protection. En fait, je casse celle-ci. Juste en dessous, tu as une sorte de bulbe en plastique. Et donc, quand t'as pas de tour pour pouvoir arriver à la LED en dessous, c'est assez compliqué. Donc là, je chauffe en fait un trombone à blanc. Je perce ce bulbe-là. Je lance donc la caméra pour justement faire clignoter la LED bleue, et puis je prends ensuite la Dremel pour aller casser la LED bleue. Je nettoie correctement, je mets un petit peu de feutre noir dessus pour cacher les endroits d'imperfection que j'aurais peut-être produit. Et ensuite, après, je recoule une résine UV. Et une fois que je vois que ça fleure comme si c'était une autre caméra, bah je mets la lumière UV dessus et ça sèche complètement. Et puis ça redevient comme au début, plus ou moins. Et puis en fait, après ça, la lumière bleue ne clignote pas.
Mais attends, je suis bluffée.
C'est hyper galère en fait.
Ouais.
Je pensais que... Enfin, je me suis dit, éteindre une lampe, ça paraît pas si dur. Ouais. Mais en fait, tout est fait pour que ce soit difficile.
En fait, je pensais que tu allais utiliser plutôt la partie software et avec le software arriver à désactiver ça via la programmation. Et en fait, non, c'est vraiment... c'est le hardware que tu casses. Mais du coup, si tu dois en produire plusieurs, tu dois toutes les faire à la main.
À la main. Ouais.
Wow,
ce qu'il y a avec le software, c'est que vous le savez, quand il y a des gadgets ou des outils qui sortent comme ça, la société fait des veilles, voit justement il y a un détournement, ils font des mises à jour et puis c'est parti. Il faut recommencer, retrouver une faille. Là, clairement, il y a pas de possibilité de mise à jour sur quelque chose qui est cassé. Et puis tout le monde me demande pourquoi tu mets pas une pastinoire dessus. En fait, la pastinoire, quand la devanture est cachée, en fait, les méta se mettent en arrêt, en erreur, et elles disent la lunette est obstruée.
Ah, ils ont prévu.
Exactement. Et tout le contour, en fait, est un détecteur de luminosité. Donc la moindre chose qui est dessus, et puis, en fait, on.
Mais c'est quoi la raison de l'existence de cette lumière à la base?
La
future.
Je pense que c'est.
Pour que tu fasses pas ça.
Ouais.
Tu prennes pas les gens à leur insu, quoi.
C'est exactement pour ça.
Ouais,
c'est pour faire en sorte que ce soit obvious.
C'est comme c'est les bruits au Japon, là. Quand tu prends une photo, où ils ont des problèmes justement de photos sous les jupes, etc.
Je crois que c'est au Japon.
Ah oui.
Et donc les constructeurs de téléphones sont obligés qu'il y ait un son sur tout ce qui est prise de photos, de vidéos.
Non, il makes sense en vrai, mais oui, tout à fait.
C'est justement une des raisons où à un moment donné j'ai un peu douté de continuer. Alors maintenant je sélectionne les gens à qui je vends. Pour moi, il faut être société, il faut avoir un cabis à présenter, il faut montrer aussi dans quel domaine vous travaillez, parce qu'un maçon qui va me demander des lunettes comme ça, ok, peut-être pour filmer, je sais pas, mais je fais quand même un peu de vérification parce que justement, une des sources que j'ai vues il y a quelques mois, c'était justement une personne qui s'était amusée à filmer dans des endroits où les gens se déshabillaient, douche, vestiaire et autres. Et là, je me suis dit, bon,
oui, donc
continue,
t'as une responsabilité de
quand même
vérifier. Un autre truc assez fou que j'ai vu avec ces lunettes, c'est les démonstrations de reconnaissance faciale en direct. C'est évidemment le scénario ultra flippant, mais dont on sait qu'il va arriver, qui est que ce genre d'appareil que t'as en permanence, en fait, te superpose de l'information. Ouais. Et on se doute que si ça te superpose la météo, ça te superpose aussi quand t'es force de l'ordre, ou on a un travail d'enquête, ou ça te superpose des informations sur les gens que tu croises, tu peux savoir toute leur vie, quoi. Ouais. Comment ils font?
Mais mieux que ça, que j'ai comme exemple, imaginons, nous, on avait eu cette demande-là. Imaginons que je sois à videur dans un lieu un peu luxueux, huppé. J'ai mes lunettes qui sont en direct, donc sur un PC sécurité derrière. Puis en fait, j'ai pas de liste. C'est un peu ennuyeux, il pleut et autres. J'ai les mains dans les poches au chaud. Et puis en fait, il y a une personne qui vient qui dit je suis monsieur un tel, je suis sur la liste. Bah, très clairement, il y a directement une discussion par micro osseux à distance. Et puis en fait, la personne qui est au PC sécurité regarde la liste, dit c'est bon, tu peux laisser rentrer monsieur un tel. Et puis voilà, parce qu'il le voit, parce qu'il connaît le nom, il connaît la liste et il peut laisser rentrer.
Mais donc, tu penses pas que ça va être automatisé? Enfin, le
ouais,
côté...
je pense. Oui, il y avait déjà une vidéo. Alors je sais pas si elle était fausse ou pas, parce que je l'ai vu tourner, mais je trouvais ça un peu gros. Justement, c'était des jeunes d'une université aux États-Unis qui avaient créé des lunettes qui justement faisaient du PIMEYS en direct et allaient chercher les comptes et ainsi de suite.
Donc PIMEYS, société de reconnaissance faciale.
Exactement. Et qui faisaient après des semblants de rentrer en discussion en disant hey, tu te rappelles pas de moi, et puis en fait les personnes étaient un peu choquées. Mais oui, il y aura forcément des débordements. En fait, je pense que c'est comme chaque outil, chaque gadget, il y a le bon côté et le mauvais côté, comme internet, comme tout, en règle générale.
Donc on a vu les lunettes. Est-ce que dans ce matériel d'enquête, justement, tu peux nous parler des autres objets, notamment, je crois que tu fais des téléphones.
Oui.
Je sais pas si c'est plus utile pour de l'enquête ou d'autres choses, tu vas nous expliquer, mais tu fais des téléphones que tu ouvres et que tu modifies. Alors qu'est-ce que tu fais dedans?
Alors je fais plein de gadgets et je progresse de plus en plus. Je tiens à préciser que je suis pas du tout expert en électronique, je suis un bidouilleur. Et effectivement, les téléphones, je me suis mis spécifiquement à l'électronique pour pouvoir les modifier correctement, parce qu'à la base, je coupais directement sur la nappe, enfin sur le PCB. Et maintenant, je fais vraiment... j'ouvre le téléphone et par exemple, c'est un peu à la carte. Si la personne me dit, voilà, moi en fait, je veux pas être écouté, je veux pas être suivi, j'ai des doutes aussi sur la caméra frontale, on enlève la caméra frontale, on enlève justement les micros qui sont sur le téléphone, on les dessoude avec un canon air chaud. J'enlève aussi tout ce qui est... alors le sensor, c'est une sorte de petite... j'essaie de vulgariser, c'est une sorte de petite chip qui va faire accéléromètre et gyromètre. Et en fait, c'est ce qui sert à justement géolocaliser quand vous êtes, par exemple, sur le GPS ou ainsi de suite, mais qui permet aussi...
Et en plus du GPS, ça te donne beaucoup d'informations sur tes mouvements, ta vitesse de marche, etc.
Même connexion dans une maison, parce que objet connecté, c'est le MIT qui avait fait justement des tests et qui se rendait compte que une enceinte connectée, une télé connectée, et en fait t'as encore un objet au milieu qui se balade, bon bah c'est assez simple de savoir que c'est peut-être un humain avec sa montre ou un téléphone, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà.
Le principal usage, c'est d'enlever toute la traçabilité qui est liée au téléphone.
Je vais peut-être montrer un téléphone que j'ai déjà modifié, qui est mon personnel. Donc c'est un de mes téléphones perso. Je l'ai rendu transparent exprès pour qu'on voit un petit peu ce qui a été enlevé ou ce qui a été fait. Là, j'ai enlevé par exemple la partie chargeur à induction pour pas qu'il chauffe et pour qu'on voit un peu mieux justement le travail. J'ai enlevé les deux micros, j'ai enlevé donc le fameux sensor, j'ai enlevé la caméra frontale et j'ai laissé juste celle à l'arrière parce qu'elle est très belle. Et en ce moment, je suis en train d'usiner en fait une petite pièce en aluminium avec un aimant pour pouvoir le mettre dessus, le retirer et le remettre pour que justement il n'y ait pas de possibilité de la déclencher à distance. On peut se dire aussi, j'ai peur d'avoir un piratage par la partie USB-C. Dans ce cas-là, j'enlève USB-C, on le bouche et puis en fait après on marche seulement avec la charge à induction.
Ah oui.
Et puis voilà, il y a un film anti-espion dessus et il est sous un OS que vous connaissez qui s'appelle GrapheneOS, qui est ultra sécurisé, qui est génial.
Faut expliquer un tout petit peu. Donc
oui,
le GrapheneOS, c'est ça ressemble à Android, c'est une base Android, mais qui est différente.
Exactement, c'est un peu comme si vous enleviez Google iOS ou Android. Et en fait, vous avez un OS qui est exactement pareil dans la simplicité d'utilisation, sauf que c'est non permissif sur tout ce qui est intrusion en branchement, intrusion même sur le système. Et aussi, il y a des petites features comme changement à chaque fois, vous savez, de quand vous tapez votre code PIN, là, ça va changer les boutons à chaque fois. Vous n'avez pas d'adresse Google à créer. Il n'y a pas de récupération de cookies, ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh. C'est vraiment prévu. Là, je vulgarise au maximum parce que techniquement, c'est super long comme liste de solutions techniques pour la privacy. Mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sûr et ce que j'ai pu tester et que j'adore.
Trop stylé. Donc, tu combines vraiment le côté hardware et logiciel pour rendre le téléphone globalement intraquable. Ouais. C'est qui le client type pour ce genre d'objet ?
Donc, la première société, entre guillemets, qui m'a demandé d'en faire, ça a été l'OFAC. Donc un service de police. Vous avez peut-être vu les mimes des policiers qui disent salut Rouya, comment vas-tu, alors qu'en fait il y a la géolocalisation qui est encore là, on voit le commissariat. Bon ben voilà, c'est pour éviter toutes ces choses là et puis en fait on leur met déjà de base des applications avec déjà en fait un pseudonyme dessus, et puis en fait le téléphone il est livré comme ça. Et puis même ils avaient très peur parce que quand tu lances Snapchat, t'as ta tête directe qui est en front de caméra. Bon voilà, c'est impossible.
Est-ce qu'on pourrait faire la démo?
Okay.
Alors explique-nous. En fait, on va le faire en direct. Donc, qu'est-ce que tu commences par faire? Première étape.
On va chauffer donc le contour du téléphone pour justement chauffer l'ancien joint pour pouvoir ensuite extraire la partie arrière du téléphone. Okay. Et ensuite, je vais travailler directement après sur l'intérieur du téléphone.
Ça marche.
Et puis voilà. Donc en plus, fan de gadgets, j'ai vraiment pris des outils qui étaient pour moi incroyables. Par exemple, là, j'ai une station de soudure. Comme je commençais à apprendre, c'était pour moi très dur d'avoir... déjà, pour moi, il faut être gaucher pour vraiment faire de l'électronique et que ce soit plus simple dans ma façon de faire. Et là, j'ai pris du coup, pour garder les mains libres, une station un canon air chaud qui, en plus, marche par IA et je peux lui donner des commandes. Et en fait, il monte...
Qui marche par IA ?
Ok, attends, vas-y, montre-nous. T'as jamais vu ça ?
Oh.
Donc là, je sors et je fais... Hey, quick !
Hey ! What can I do for you?
Set channel 1.
Set the channel 1.
C'est la maison de Stark.
C'est méga cool.
Donc là, on chauffe le joint, ça prend toujours un peu de temps. Donc je passe une petite ventouse. Hop, ça veut bien se mettre. Là, j'ai un petit coup de pression. Voilà, on fait comme une incision.
Et j'ai envie de dire, pour l'instant, ça ressemble à la boutique informatique du coin qui te répare ton écran.
Exactement.
C'est surtout après que ça devient marrant.
Et là, il ne reste plus qu'à travailler dessus. Donc forcément, il faut tout dévisser. Alors, j'aurais pu prendre mes outils en électronique, mais c'est le gros danger de ces téléphones-là, c'est quand vous refermez avec la partie électrique. Parfois, vous forcez trop sur l'écran qui est derrière et vous cassez tout.
Et là, du coup, c'est pour enlever quoi
Là, on va enlever justement micro, la sensor chip. On va enlever aussi les caméras avant, les caméras arrière. Bon, déjà, c'était ce qui était demandé. Si vous voyez bien ici, vous avez un premier micro qui est ici, exactement. On en a un second qui est là-haut, derrière la petite connectique justement qui n'était pas trop belle. Là, on a justement la caméra frontale, donc que j'ai déclipsée et qui s'enlève maintenant. C'est une simple petite colle. Voilà, je l'ai retirée.
Ah.
C'est aussi simple que ça.
Ok, est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus difficiles à enlever, par exemple?
Oui. Quand on va venir justement à la partie sensorship, qui est derrière. Alors là, je viens de retirer. Ça, c'est la partie. Vous voyez, ça, c'est la partie charge à induction. Directement après, donc, il y a deux parties de nappe qui sont connectées, plutôt de carte mère qui est connectée avec cette petite connectique là que je retire. Hop.
Ah.
Là, celle-ci, on va la garder parce que forcément, elle fait le lien entre la première et la seconde.
Enfin, je suis fan.
Seconde connectique. Là, on arrive là directement sur la batterie. Là, j'ai ce qui fait un peu de bruit et qui se balade, c'est justement le flash qui est connecté donc aux autres appareils photo. Et puis là, effectivement, on va aller défaire les deux dernières vis pour pouvoir extraire la première partie de la carte.
Ok. Donc c'est là où tu vas voir tout ce qui est capteur.
Exactement.
Accéléromètre, etc. dont tu nous as parlé. GPS aussi.
Oui. Et voilà, on a la première partie déjà qui est toute belle.
Et on réalise que l'entièreté du téléphone, plus ou moins, c'est la batterie. En fait, c'est la batterie.
En termes de taille, ouais.
Et on peut aller encore
mais l'intelligence,
plus loin,
elle est là.
On peut aller encore plus loin. On va déconnecter justement cette fameuse antenne. Hop.
Donc ça, là, tu la vires?
Non, je vais la garder, celle-ci. J'ai juste enlevé le micro qu'il y a dessus. Ce micro-là est pour le bruit ambiant.
Ah d'accord. Attends, il y a des micros cachés, en fait, à des endroits what the fuck.
Exactement.
Mais pourquoi ils font ça?
Donc là, c'est quand vous l'avez au-dessus, le micro est en bas, mais vous avez un autre micro qui va justement camoufler le bruit ambiant, qui va justement prendre les bruits ambiants.
Annuler.
Ouais, c'est ça. Un peu comme sur les écouteurs.
C'est génial.
Oui.
Je ne savais pas. Donc en fait, il se met le plus loin possible, au contraire, de la bouche.
Oui.
Pour capter le son et annuler.
Oui.
Sur la waveform du micro.
Exactement.
Principal.
Faire une petite zone, on va dire.
C'est génial.
Donc là, j'ai sorti la partie justement.
Comment je ne savais pas ça. C'est
caméra.
Fou.
Avec le flash. Et là, partie un peu logique. Plus technique, on est donc sur, on va dire, la carte principale. Et nous, ce qu'on va chercher à enlever dessus, c'est le fameux censorship qui est caché ici.
Ah, c'est le tout petit truc
tout
là.
Tout petit truc là, exactement.
Ah, ouais. Donc ça, tu le retires.
J'ai enlevé celui-ci. Et,
ok. Qui est donc lui
Justement, c'est l'accéléromètre, gyromètre,
okay.
Qui sert justement pour géolocaliser une personne dans ses déplacements. À la base, bon là, forcément, j'ai oublié l'aiguille qui allait au bout, donc on va mettre grossièrement comme ça. Hop, on va refermer ça.
Attends, donc là, qu'est-ce que c'est?
C'est du flux. C'est ce qui sert à souder, dessouder. Là, clairement, ça va nous aider à dessouder plus facilement notre pièce de sa carte.
Donc on est quand même à 420 degrés ouais. Celsius.
Okay. Sur les micros, on n'y va pas à 420. En fait, on casse tout. C'est okay. Vraiment pour le sensor parce que la soudure est différente.
Ok.
Donc au début, c'est ça qui est compliqué, c'est d'être gaucher, comme je suis en train de l'être, pour pouvoir aller chercher ma petite pièce.
Ça a fondu d'un coup. Ok, je commence, mais... C'est marrant parce qu'à température ambiante, le flux, donc la pâte chimique pour dissoudre la soudure, était un peu comme un gel et elle s'est dissoute en une fraction de seconde sous l'effet de la chaleur.
Là, c'est le composant noir qu'on voit, c'est ça ?
Oui, exactement. Si tu le vois normalement, alors peut-être un peu plus sur mon microscope, mais effectivement, il est en train de bouger complètement là. Hop.
Oh
wow.
Et voilà. Ah, ça va vite.
Ouais, ça va très vite.
Ok.
Et donc là, en fait, tu fais le minimum pour qu'il se dessoude, mm-hmm. Mais pour pas abîmer le reste des composants.
Ouais, exactement.
Et là, c'est pour refroidir.
Oui, c'est aussi nettoyer. Mais là, vous avez vu comment on enlève cette petite partie.
Trop stylé.
Hop.
Ah oui, et en fait, c'est vraiment à l'œil nu, c'est vraiment ridicule.
Ouais.
Pour le montrer.
C'est minuscule.
Voilà, là pour le sensor, c'est fait.
Génial. Et bah bravo.
Merci.
J'espère que ton client est content. Il a constaté, rien n'est cassé. Pourquoi les gens qui font ça, ils n'achètent pas des téléphones faits exprès?
Vous connaissez le prix d'un téléphone chez Thales? C'est à prendre avec des pincettes, hein, mais je crois qu'on m'avait dit, et vous savez, on m'a dit, c'était dans les 50 000 euros.
Ouais.
Donc, voilà. Bon, après, c'était spécialement conçu pour des présidents et ainsi de suite. Mais voilà, il existe des téléphones donc où tout peut être déconnecté en pressant des boutons ou en glissant un bouton on/off. Mais aujourd'hui, moi et puis les gens qui utilisent ces téléphones-là préfèrent se dire c'est enlevé. Il n'y a pas de supposition ou de peut-être que.
Et il y a quand même un gros critère, c'est que là tu prends des téléphones qui sont complètement à l'état de l'art. Donc si c'est un truc que tu vas utiliser tout le temps, t'es content qu'il soit aux dernières mises à jour, qu'il ait un bon appareil photo,
exactement.
Etc.
Ouais.
Donc.
Normalement, Graphene permet de couper le micro, la caméra et autres. Mais pareil, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on fait pas confiance?
Bien sûr.
Il y a pas longtemps, et je l'ai dit dans une autre émission, c'est, je sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est, faut pas être parano, mais seuls les parano survivent.
Voilà, il y a bretelles et ceintures, quoi.
Voilà, exactement.
Et est-ce que tu sais le faire aussi sur des ordinateurs portables?
Oui, exactement. Je fais des ordinateurs ghost. Donc, c'est-à-dire, on enlève donc la caméra frontale. J'enlève aussi les micros, les enceintes. On enlève pratiquement tout. On laisse juste la RAM, la batterie. Voilà. Ensuite,
pourquoi les enceintes?
Alors, pareil, le MIT a fait un exposé il y a quelques années. Et il faut être parano parce qu'ils ont réussi à prouver que, pour vraiment schématiser, les enceintes pouvaient être détournées pour être utilisées en tant que micro.
Ok.
Donc voilà, c'était super intéressant.
Faut savoir.
Ils ont fait énormément de thèses sur le son, justement. Même le mouvement derrière une vitre peut amener du son, de la récupération de son.
Donc, c'est-à-dire qu'en observant une vitre,
oui.
Tu peux savoir...
Oui.
Par exemple, ce qui se dit dans la pièce,
oui.
Ou des choses.
Ça s'appelle de l'écoute laser. Ça a déjà été fait, même sur des feuilles d'arbres. On sait, il y a un arbre derrière une fenêtre à distance avec de l'écoute laser. Bon, on peut entendre du son interne juste par le mouvement de la feuille sur l'arbre.
Ok. Voilà.
Dans ton arsenal, les gens auront forcément remarqué quelques objets qui sont sur la table. Tu as une montre au poignet. Il y a aussi un sac. Même le sac est particulier de ce que tu nous expliquais. Parce qu'il a ce sac.
Alors moi, je me suis même mis à apprendre à coudre. C'est un sac que j'adorais. Je trouvais vraiment bien. Et en fait, j'avais acheté des sacs Faraday. En fait, c'est un tissu avec des composants ferreux, on va dire, qui sont bien cousus hermétiquement pour qu'aucune onde puisse passer. C'est-à-dire, si je mets une enceinte dedans, j'essaie de me connecter en Bluetooth, ça va pas marcher. Comme si j'essaie de faire du SIGINT, donc de la récupération de signal ou de l'OSINT sur signal pour les puristes. Mais en fait, ce sera impossible. Parce que justement, donc sur ce sac-là, j'ai une première partie qui est, on va dire... officiel, civil, où je peux ranger pas mal d'affaires, un petit ordinateur là derrière. Mais, alors moi, c'était une commande pour les JO, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la peur des sacs qui étaient volés, mais aussi des communautés étrangères qui venaient, peut-être, justement.
Oui, c'est-à-dire que tu veux te déplacer avec ton ordi ou des choses comme ça.
Exactement.
Tu veux le protéger dans un sac Faraday pour que même un service de renseignement étranger puisse pas exfiltrer de l'info.
Oui, si je passe par exemple une douane. Alors, je pense qu'ils auront quand même un peu l'œil pour se dire bon, ouvrez le sac. Mais au moins, je sais que je vais pas avoir un signal qui va être récupéré.
Mais est-ce que ça passe à la douane du coup les sacs comme ça ?
Ça passe. Je suis parti plusieurs fois avec, même aux États-Unis.
Okay.
Et en fait, je pense que ça doit être aléatoire, mais moi, aucun problème.
Okay. Oui, parce que en réalité, quand tu le passes au rayon X, tu vois ce qu'il y a dedans. Il y a pas de problème.
Exactement. Tu vois ce qu'il y a dedans. Mais je pense que s'ils te font ouvrir le sac comme ça peut arriver, parce que par exemple, j'avais du matériel. Imaginons, j'avais mon matériel justement avec les petites vis. Pour eux, les petites vis, ça peut être des balles. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient en visu. Ils sont obligés de vérifier. Du coup, quand j'ouvre, on fait, oh, c'est quoi ce sac ?
Mais pour faire l'enceinte Faraday dans ton sac, t'as rajouté...
C'est ça. En fait, le sac, il est déjà hermétique de base. Et en fait, je rajoute un film. Donc, ce film-là, qui est spécifique.
Oh, mais ça passe très bien.
Ça
quand
passe
même.
En vrai. Je pensais que ça allait être des armes plus...
Non,
c'est genre de l'aluminium, t'as du papier d'alu, genre.
Ouais, je pensais que
c'est vrai qu'il y en a qui sont dans ces airs-là. Moi, j'ai préféré. Alors, il y a de l'avancée technologique aussi là-dedans. Là, tu peux mettre tes téléphones, tout ce qu'il y a d'électronique.
En gros, n'importe qui peut le faire si t'as un sac et que tu rajoutes juste cette couche-là et que tu te mets un peu à la couture, quoi.
Exactement. Ouais, okay. Moi, clairement, j'ai pris des cours de couture pour ça. Et c'est pour ça qu'aussi, les coutures sont peut-être pas forcément super belles, mais oui, je suis passé.
T'as des commandes de sacs, du coup ?
On en a eu à peu près, une petite dizaine quand même.
Toujours le même modèle, donc ?
Non. Souvent, les gens viennent, on les conseille sur des types de sacs, justement, qui sont hermétiques pour pouvoir faire du roll top et on leur ajoute après le film dedans, puis voilà. Parce que le problème avec cela, c'est qu'on peut pas rendre la fermeture hermétique à cause justement de la fermeture. Le roll top, c'est le mieux, et au moins on le ferme et puis voilà.
Et pareil, les gens vont se dire que c'est un niveau de paranoïa très élevé, qu'on peut pas t'intruser en appareil comme ça à distance.
D'accord.
Qu'est-ce que tu le...
pour être dans le domaine et pour avoir vu et entendu des choses, moi je pense honnêtement qu'il faut se méfier de pas mal de choses et de sujets. Sur justement la partie signal, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de nos jours.
Et je trouve que le coût du sac, c'est pas une marche si haute que ça à prendre.
Oui.
Tu vois, ça m'étonnerait pas que par exemple une entreprise puisse juste fournir des sacs comme ça à ses employés pour qu'ils mettent leur ordinateur dedans.
Et... C'était une demande. J'ai eu plusieurs sociétés, même des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, qui se disaient. On sort par exemple des outils technologiques qui ont une forte avancée, on se fait souvent copier. Moi, j'aimerais que les gens, avant d'entrer en réunion, mettent leur téléphone dans un sac Faraday et non que leur ordinateur, donc de la société, pour pouvoir échanger, faire la réunion.
On va voir les autres gadgets aussi, mais avant j'avais juste une question, c'est comment tu te retrouves dans cette position, toi, à l'origine, d'être un peu Q. Il paraît que t'as même un surnom à la BRI.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce surnom et quand tu t'es retrouvé un peu dans cette position étrange de tu n'es pas un gradé, enfin tu n'es pas dans le système et pourtant tu travailles avec eux. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Justement, j'avais toujours des gadgets sur moi et peu importe les boîtes dans lesquelles j'allais, les gens me connaissaient dans la lutte contre la fraude, mais quand j'ouvrais mon sac, ils disaient mais attends, c'est quoi tout ce que t'as dans ton sac? Et je dis ça. Ils me disent mais t'es complètement fou, enfin ça sert à rien de nos jours. Et puis en plus on est sur Paris, on n'est pas dans un endroit désertique. Voilà, j'avais vraiment des choses complètement folles à chaque fois. Même faut savoir que des marques m'envoient maintenant des téléphones à tester, m'envoient des gadgets à tester. Et en fait j'ai commencé comme ça. Et un jour je rencontre une collègue à moi qui travaille dans une boîte liée à la défense. On échange et tout, et puis elle voit mon sac, elle rigole et elle me dit écoute, attends, je vais te présenter quelqu'un, donc c'est mon responsable, et lui gère une cellule de crise qui va chercher donc les gens qui travaillent pour des sociétés dans des lieux en crise. Par exemple, ça a été Ukraine-Russie. Bon, là, on avait des gens qui travaillaient là-bas, on veut les faire venir. La personne, en fait, m'a pas jugé comme beaucoup, il m'a fait « ouais, c'est génial ». Est-ce que tu serais capable de créer, aux États-Unis ils appellent ça un bag out back, et eux me disaient un sac d'urgence, c'est-à-dire un sac de rapatriement, c'est le terme anglais, et le but c'était d'avoir dedans bah, par exemple des micro-pailles qui vont pouvoir même boire l'eau des toilettes et enlever tout ce qui est bactéries. Ça va être par exemple une batterie externe que tu actionnes avec une manivelle au lieu de le brancher parce qu'il n'y a plus de courant pour pouvoir charger tes appareils et peut-être passer un appel.
Oui, donc vraiment, ils viennent avec des demandes en mode, nous on n'y connaît pas trop.
Oui.
Voilà ce dont on a besoin, démerde-toi quoi.
Exactement.
Et quel est ce surnom justement qu'ils t'ont donné, par exemple à la Berry?
À la Berry, ils m'appellent le sorcier. Donc, pour moi c'est trop, clairement c'est trop, je suis honoré.
Ils viennent te demander quoi, ça ressemble en gros?
Vraiment la première fois c'est passé par un ami qui travaillait donc dans les forces de l'ordre et qui a dit, ah je connais quelqu'un, ça peut l'intéresser, il est à la Berry, tu peux lui faire des lunettes. Il est venu donc à l'atelier, j'ai fait des lunettes, il est reparti, il était super content, il en a parlé à d'autres. Et puis après, 1, 2, 3, 4 personnes.
Ce que je trouve incroyable, c'est que les gens peuvent avoir des requêtes un peu farfelues, oui. Mais en fait, toi, tu peux t'adapter à peu près tout ce qu'on pourrait potentiellement demander. Mais exactement comme Q, en fait.
Ouais, c'est vraiment hyper drôle. C'est quoi les demandes un peu exotiques que t'as de leur part?
La dernière demande, c'était voilà, il fallait avoir un coupe-circuit automobile ou plutôt quelque chose qui va couper une voiture avant son démarrage pour une top interpellation.
À distance, tu veux dire?
À distance, donc, c'est ça. Une petite télécommande, j'appuie.
Et ça coupe le moteur.
Et puis ça coupe la voiture, peu importe où je vais le mettre, où je sélectionne. Il y a pas mal de possibilités. Et le but, c'est d'arrêter la voiture avant une top interpellation pour pas avoir justement des dégâts, des gens qui pourraient être sur la route et ainsi de suite. Et ils avaient déjà. Mais le problème, c'est l'achat à l'étranger qui posait problème et qui pouvait parfois amener des erreurs de pilotage ou de navigation. Okay. Voilà.
Toi, c'est ça le brief?
Ouais. Ah oui.
Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... C'est quoi tes connaissances, tu vois, dans...
Ah là, à ce moment-là, rien du tout. En fait, justement, moi, je suis venu dans tout ce qui était électronique et gadgets parce que je faisais déjà de la veille dans la lutte contre la fraude et je me dis, mais en fait, tout travail démarre à partir de veille. Donc, si déjà t'es bon dans la veille, tu vas voir ce qui existe et puis après, il suffit juste à casser, à recommencer, à tester. C'est vraiment comme ça que je m'y suis mis. Et puis, du coup, quand on m'a fait cette demande-là, j'ai appelé donc deux de mes contacts en électronique. J'ai dit, les gars, possible? Ils me font, oui, bien sûr, ça existe déjà. Donc, on a cherché quelques modèles qui existaient pour les tester, pour les regarder et voir comment on pouvait recréer notre produit à nous. Alors forcément, l'achat à l'étranger est un peu contourné parce que les pièces viennent bien de l'étranger, mais sont ensuite remontées en France. Et puis voilà, il y a des grades de qualité, justement d'outillage qu'on va mettre sur les nappes ou le PCB pour pouvoir avoir quelque chose de très très concret, très quali.
Ou du contrôle vraiment toute la chaîne.
Oui, exactement.
Ouais. Et il paraît qu'on te demande même des trucs sur les trottinettes.
Oui, c'est quoi, effectivement. Débrider une trottinette. mais c'était vraiment... je pensais que ça allait être pour des lunettes, un téléphone. Puis la personne m'a dit, écoute, j'ai une trottinette.
Vraiment ça, l'accent. C'est des particuliers, du coup.
Non, là, c'était force de l'ordre.
Ah ouais?
Okay. Alors, c'est pas forcément top de le dire comme ça, mais effectivement, c'était... moi, je veux voir ce que ça fait, tu peux me débrider.
Okay.
Pareil, c'était de la veille. La personne électronique qui travaillait avec moi m'a dit, ouais, ça devrait pas être si dur que ça. Et puis, en fait, on a regardé, il y avait même des tutos.
Oui, très bien.
Ben voilà, clairement, c'était pas non plus... on n'a pas inventé la roue.
C'était pas un fait d'armes, ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant. Bon, on peut finir sur le téléphone. Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité-là qu'on voit?
Alors ça, j'en suis assez content. Quand je travaillais, par exemple, pour Samsung, en faisant de la veille justement sur Samsung, j'ai vu que le gouvernement américain prenait des téléphones qui étaient modifiés par justement Samsung et une marque qui s'appelle Juggernaut pour faire justement donc des téléphones qui supportent plus la chaleur, plus le froid, qui avaient déjà de la cartographie embarquée, qui avaient une coque comme ça, et des boutons paramétrables, des batteries qu'on peut changer à la volée, de la possibilité de mettre des branchements pour faire justement du push to talk, énormément de choses.
C'est pour ça qu'il est massif.
C'est pour ça qu'en fait, quand je l'ouvre, il est beaucoup plus petit. Moi, ce que j'ai aimé, j'ai mis un filtre anti-espion, j'ai mis une carte mémoire 1 Tera.
Ah oui, le téléphone en dessous de la coque, il a une taille normale en fait.
Exactement, il est même petit si on regarde vraiment.
Ah, voilà.
Et celui-ci, c'est le X-Cover 6, donc militarisé, qui est dans une coque spécifique. Donc tous les boutons sont paramétrables. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai un plastron où je le mets sur mon sac et je peux directement le clipser comme ça, donc pour filmer, pour enregistrer. Et en plus de ça, je peux le pencher pour piloter un drone, par exemple, faire de la cartographie, du LoRa, enfin ce que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est parfait pour ça. Moi, j'ai rajouté, donc pareil, un gadget, ça fait un petit trépied. J'ai de la lumière quand je veux regarder. Et puis, si jamais je dois rentrer quelque part... Voilà. Et en fait, je fais de la veille, pareil, parce que le but, c'est pas de réinventer la roue. Hein. Parfois, on a des demandes. En fait, on va chercher ce qui existe, ce qui est pertinent, et puis on va le proposer.
Ouais. Mais justement, un truc plus original, je trouve, qui est intéressant, c'est cette montre.
Très jolie montre.
Qui est notamment une fonctionnalité assez que j'ai même pas totalement bien comprise d'ailleurs. Donc il y a pas d'écran, c'est pas une montre connectée.
C'est ça, c'est pas une montre connectée. Alors c'est très mal vu, on va dire, par les gens du terrain, même si beaucoup en ont. Aux États-Unis, par exemple, il y en a de plus en plus qui retirent la partie justement montre connectée. Je sais pas si vous avez vu passer aussi dans les médias, tout ce qui était militaire recevait des montres connectées dont ils ne connaissaient pas la provenance dans leur boîte aux lettres et les mettaient. Donc on sait pas d'où. Enfin voilà. Et puis du coup, beaucoup de personnes reviennent en arrière et prennent des montres, on appelle tool watch, qui permettent juste de faire ce dont on a besoin, avoir l'heure. De la luminosité un petit peu, et puis voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là ?
Celle-ci, elle est beaucoup utilisée par les forces de l'ordre aux États-Unis, donc elle a l'heure normale de chez Luminox, et puis cette partie-là, ce gros boîtier-là, qu'on peut recharger, est en fait une montre qui est spécifique. Quand je vais par exemple tenir mon arme, je vais appuyer directement là, et là j'ai 300 lumens qui apparaissent, et puis je peux rentrer dans une pièce sans avoir une lampe à côté ou sur mon arme, pour pouvoir justement mon arme de poing et me promener comme ça dans un bâtiment et pouvoir.
C'est quoi l'autonomie de cette
Vraiment longue, ouais. Même sur 300 lumens. Alors moi, on va dire que j'ouvre pas des portes et je rentre pas chez les gens, mais je l'utilise par exemple tout bêtement comme une personne âgée pour aller aux toilettes le soir.
C'est bien la version de ton client et ta version à toi.
Moi, je vais aux toilettes le soir, je l'allume. Au moins, je sais où je vais, j'allume pas les lumières, je dérange pas tout le monde, hop, et puis je fais ce que j'ai à faire, et puis je retourne au lit tranquillement.
Il y a un autre truc que tu fais avec des montres, si j'ai bien compris, c'est de mettre une puce RFID.
Ouais, NFC, en fait.
NFC, pardon.
Donc c'est une entreprise suisse qui fait ça, c'est des verres avec une petite puce NFC sur, pareil, qui est connectée sur le côté.
Qui est dans le verre, en fait.
Qui est collée sur la partie externe et sur le côté du verre. Et comme ça, quand on pose le verre, on ne voit pas. Et même quand on ouvre la montre, on la voit pas parce qu'elle est vraiment très discrète. Et ça vous permet de mettre ce que vous voulez, une application. Ça peut être votre site internet. Ça peut être énormément de choses.
Et toi, voilà. C'est quoi le cas d'usage le plus intéressant?
Moi, j'ai une personne que je salue aussi aujourd'hui, qui a fait une application un petit peu comme Signal. On se base sur un Rocket Chat. Et en fait, imaginons que je passe une frontière. On vérifie. Mais vous avez vu maintenant ce qui se passe. Pareil aux États-Unis, il faut donner ses réseaux sociaux et ainsi de suite. Je viens sans téléphone. Je viens sans ordinateur là-bas. Je donne ce que j'ai envie de donner, et puis quand j'arrive de l'autre côté, je prends un téléphone, je scanne, hop, et j'arrive directement sur cette application là qui fait de la voix, de la photo, qui fait de l'écriture, et en fait je peux tout transmettre comme ça facilement, sans avoir justement à aller sur une application spécifique, sans avoir à avoir les infos dans le téléphone en direct, et puis voilà quoi.
De ce que je comprenais, il y avait aussi un intérêt potentiel d'avoir ça dans un objet, parce que tu pourrais l'avoir sur ton téléphone ou directement. De ce que je comprenais, le fait de l'avoir dans une bague ou dans une montre, un des intérêts peut-être, c'était aussi le côté envoyer un message d'urgence, entre guillemets.
Bon, en fait, tu peux t'amuser même à faire des boîtes aux lettres mortes. C'est-à-dire, tu passes à un endroit spécifique et tu as deux endroits que tu peux scanner. Imaginons, je vais scanner le A, ça veut dire tout va bien. Je vais scanner le B, ça veut dire j'ai besoin d'aide.
Enfin, ah oui, donc sans faire aucun mouvement suspect, etc., tu peux globalement déclencher une action juste avec ta montre ou avec ton...
Et tu peux déclencher des objets du quotidien aussi, énormément de choses, même déverrouiller un téléphone, tu peux ouvrir, enfin il y a pas mal de choses avec le NFC qui est fait aujourd'hui quoi.
Dans tes cartons, dans tes futurs projets, t'avais plein d'idées, et notamment faire par exemple des ceintures, des ceintures modifiées.
Ceinture ou bracelet, en fait, on a vu quelque chose de super intéressant. Par exemple, Garmin a une sur les... alors, je sais pas sur toutes les montres ou pas, mais moi, sur la partie, justement, tactical, ils avaient un bouton SOS. Je reste appuyé sur un bouton, ça va envoyer à mes trois contacts prédéfinis ma position GPS plus... je suis en danger, et la possibilité aussi, par exemple, de le connecter, je crois que c'est depuis pas longtemps, d'avoir une sorte d'appel aux forces de l'ordre.
En gros, t'as une carte SIM dedans ou t'as...
Oui, ça marche par carte SIM. Le plus dur, c'est d'arriver à avoir ça en petit, en très miniaturisé. Et le but, là, c'est justement avec les enlèvements crypto et autres, d'avoir quelque chose qui permette, un bracelet ou justement une ceinture, qui permette de faire exactement la même chose.
Tu fais aussi de la modification de AirTag, de ce que je comprends, mais pas les AirTags de Apple. Plutôt ceux de Samsung. Alors explique-nous à l'origine, ça sert à quoi de modifier un AirTag?
Déjà, on peut enlever la partie. Vous savez, dedans, vous avez une enceinte qui permet justement de géolocaliser vos clés et ça fait du bruit. Et ben, imaginons que je l'ai mis sur quelqu'un qui ne le veuille pas, a la possibilité depuis son téléphone de le déclencher et d'entendre d'où elle vient.
Ah oui, mais, donc là, c'est pour du pistage, par exemple.
Ouais, exactement. Mais imaginons que j'enlève cette partie enceinte. Alors, forcément, le plus compliqué, c'est que Apple, lui, a cette feature-là d'origine basique, c'est-à-dire pas besoin de cliquer sur un bouton. Dès qu'il y a juste à côté, justement, un traceur.
Bah, oui, il parfois, on a une notification.
Exactement.
Qui nous prévient. Ah, tiens, tel AirPods ou tel AirTag, voilà. Suivez, etc.
Mais tout ce qui est Android, il faut aller chercher dans les applications, dans les paramètres, oui. Et il faut le mettre en place. Donc, on enlève cette partie enceinte, mais pas que. Ce qui était bien, bon, on le réduit, on le met vraiment tout plat. Et puis, on peut s'amuser aussi à mettre des piles qui sont soudées en parallèle pour qu'il y ait plus d'autonomie encore.
Tout plat, ça sert à quoi? Tu t'en fais quoi?
En fait, tu peux le mettre de partout après. Imagine, tu découds, en fait, un manteau, tu le mets dans la doublure, tu recouds.
La doublure du manteau.
Ouais, tu peux le mettre de partout, même dans des chaussures, si tu sais bien t'y prendre. Tu peux le mettre, enfin, un petit peu de partout. Clairement, quand c'est vraiment plat, tu peux faire beaucoup de choses. Et après, en plus, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y avait maintenant uniquement chez Samsung et ce qu'il n'y avait pas, donc, chez Apple, c'était d'avoir une recherche à la fin par réalité augmentée. C'est-à-dire que vous aviez en fait une sorte de petite lumière qui vous indiquait vers où aller, comme une chasse au trésor. Et en fait, ça clignotait de plus en plus brillant dès que vous arriviez près de l'AirTag. Et imaginez, quand vous cherchez par exemple quelqu'un avec une position GPS, vous savez à peu près l'endroit où c'est dans les étages. Ouais, c'est pas possible. Ouais.
J'ai une petite question de fin. C'est après avoir vu tout ce que tu as vu passer au cœur des services de sécurité, etc. Qu'est-ce que tu t'en retires de ce qui était au début un truc, une activité, on me disait, qui est plutôt fun, c'est avant tout l'amusement. Est-ce que ta vision a un peu changé?
Oui, j'ai l'impression d'être ce petit garçon qui jouait justement dans une flaque et qui trouvait ça complètement fou et qui d'un coup a eu accès à la mer. J'ai travaillé pour des services spécifiques et des entreprises qui travaillent sur des sujets de défense et tout. Et je peux vous dire que clairement, on est à des années-lumière de savoir ce qui existe réellement, ce qui a été fait par le passé. Il y a vraiment des gens incroyables à des années-lumière techniquement de ce que je fais, de ce que je sais faire. Honnêtement, la France, on est bien lotis.
Et si l'épisode vous a plu, je vous conseille celui où Cybermoustache nous raconte comment il a infiltré des réseaux d'arnaqueurs pour nous dévoiler leurs arnaques les plus ingénieuses du moment. C'est juste ici.